I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Xavier Martinet, Tiffaine de Roquigny, Hélène Paquet. Réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Myriam Guillot. Cette semaine, Culture Monde emprunte les sentiers des politiques culturelles. La culture soft power, la culture comme ciment identitaire, contre-culture, art primitif, un certain nombre de points qu'on évoquera cette semaine. Et ce matin, pour initier cette semaine, la culture et ses enjeux dans une région secouée par de multiples crises, le Moyen-Orient.
La vision d'Abu Dhabi à travers le projet des musées représente un message exprimant le désir de notre gouvernement et de nos autorités locales de créer des opportunités d'ouverture et d'échange avec le reste du monde. Ce projet ne peut qu'influencer positivement nos enfants et les générations futures en leur confirmant qu'elles sont partie prenante du contexte culturel mondial.
La foire de Dubaï a commencé en 2007 et à l'époque il s'agissait de la plus grande foire d'art international en Asie. Ces 9 dernières années, elle a connu une croissance exponentielle. La première année, nous avions 40 galeries et aujourd'hui, nous en avons 92. Cette année, ces galeries viennent de 40 pays différents, ce qui fait de nous la foire la plus internationalisée du monde.
Notre but en tant que Conseil saoudien de l'art est vraiment d'éclairer notre société, notre communauté, grâce à l'art et au rôle qu'il peut jouer dans le développement humain, en appréciant la beauté, en posant nos propres questions et en cherchant des réponses.
Moubarak Ahmad Al-Mouheri, directeur général de l'autorité du tourisme et de la culture d'Abu Dhabi, Antonia Carver, directrice de la foire Art Dubaï, et puis Hamza Serafi, curateur de la Jeddah Art Week, ce festival d'art créé en 2014 dans cette petite ville située au bord de la mer Rouge, en marge de la capitale saoudienne. Le Golfe, une région devenue le foyer d'un rayonnement pour les arts dont les piliers fondamentaux sont ces musées à forte visibilité internationale au Qatar et Abu Dhabi, un marché de l'art régional basé à Dubaï et la Biennale de Sharjah, mais aussi plus récemment un intérêt plus accru à la culture au sens large, donner accès à une jeunesse de plus en plus mondialisée, à des loisirs, des divertissements, à la culture. C'est d'ailleurs au cœur du plan de réforme du vice-prince héritier Mohamed Ben Salman, le plan baptisé Vision 2030. Donc, quand on pense au Golfe et plus largement au Moyen-Orient, on pense au pétrole et à la guerre, mais depuis quelques années, il s'impose, ce Moyen-Orient, également comme un nouveau terrain pour des politiques culturelles innovantes et novatrices. Le Louvre d'Abu Dhabi, un musée à visibilité mondiale, je le disais, en étant probablement la vitrine la plus connue, mais d'autres existent déjà d'ailleurs. Le Guggenheim, Abu Dhabi également, mais aussi à Doha, par exemple, avec le musée d'art islamique, et d'autres encore sont en projet. Comme à Riyad, on en parlera, qui veut construire le plus grand musée d'art islamique du monde. Alors en quoi la conception de ces grands musées varie-t-elle d'un pays à l'autre? Est-elle la même pour les petits et fragiles émirats du Golfe que pour le grand frère saoudien? Et plus généralement, et au-delà du Golfe Persique, quelles sont les politiques culturelles mises en place dans ce Moyen-Orient? Comment ont-elles évolué au cours du temps? Et que nous disent-elles aussi des évolutions de cette dialectique entre culture et politique? Quel bilan est-ce qu'on peut dresser des différentes stratégies menées par les États du monde arabe? Et que nous disent-elles aussi de la manière dont ces États se construisent une identité nationale, un récit national, et dont ils entendent le projeter au reste du monde? Voilà un certain nombre de questions qu'on va se poser ce matin avec un invité, Alexandre Caseroni. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Alexandre Caseroni. Vous êtes chercheur à l'École Normale Supérieure dans PSL, Paris Sciences Lettres. Vous avez réalisé une thèse de doctorat sous la direction d'ailleurs de Gilles Kepel, qu'on connaît bien ici sur France Culture, intitulée « Le miroir d'échec, musée et patrimonialisme dans les principautés arabes du Golfe Persique », qui porte notamment sur les musées, sur le marché de l'art dans les principautés arabes du Golfe Persique, bien sûr, qui s'appuie sur un certain nombre d'enquêtes de terrain que vous aviez réalisées entre 2007 et 2013, du côté du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats Arabes Unis. Et puis j'indique pour les auditeurs que vous préparez un ouvrage qui va paraître au PUF dans quelques mois sur les musées, sur le marché de l'art dans cette région. Vu d'ici, Alexandre Caseroni, on a l'impression que le Golfe s'est emparé finalement de cette question de la culture et en particulier de l'objet muséal dont on parlera beaucoup aujourd'hui pour en faire une dimension de sa politique depuis aller quoi 10-15 ans. Mais en réalité, Alexandre Caseroni, il faut quand même dire que dans ce monde arabe, les liens entre culture et politique, culture et diplomatie sont très anciens. Ça fait très longtemps qu'on voit aussi la culture comme un outil diplomatique.
Oui, toute la modernisation chez ce monde, qui est le monde immédiatement voisin de l'Europe, s'est faite par l'apportation de modèles culturels au XIXe siècle. Et de manière très forte, et le cœur de cette apportation de modèles culturels européens, c'était d'une part le modèle de l'État européen, organisé avec des ministères, et d'autre part le type d'enseignement supérieur qui allait être... qui est le modèle d'enseignement supérieur européen qui s'est diffusé rapidement dans ce monde où l'éducation était aux mains du clergé. Et donc tout le 19e siècle, dans le monde arabe, dans le monde turc et dans le monde iranien, c'est la révolution culturelle. C'est un temps de révolution culturelle avant la révolution économique, de l'industrialisation, et les révolutions politiques qui viendront après. Donc dans un premier temps, on a dans ce monde islamique, voisin de l'Europe, l'importation de ce qui est le cœur de la vie culturelle, l'école. Et ce travail-là, il s'accomplit au XIXe siècle, et c'est en réaction, en fait, à cette révolution culturelle que va se développer l'islamisme. L'islamisme, c'est avant tout, qui est aujourd'hui l'idéologie dominante dans le monde islamique. L'islamisme accorde à la culture la place que le marxisme accordait à l'économie. Parce que l'islamisme s'est développé à la fin du XIXe siècle dans ce contexte où la grande transformation que subit le monde islamique, qu'il soit arabe, turc ou iranien, c'est la révolution culturelle, qui consiste à importer l'école européenne dans un monde où l'éducation était aux mains des clercs. Donc la culture est au centre de toutes les transformations de ce monde islamique depuis maintenant 150 ans. Et y compris jusqu'à l'idéologie la plus forte, la plus présente aujourd'hui dans... disons, les transformations récentes.
Alors, on va voir évidemment comment a évolué au cours du temps, effectivement, culture et politique, ce lien-là. D'abord, un mot sur l'actualité, Alexandre Caseroni. L'Arabie Saoudite, depuis la mort du roi Abdallah en janvier 2015, rappelons-le peut-être pour les auditeurs, le royaume est désormais dirigé par son demi-frère, le roi Salman, mais en réalité, le pouvoir est concentré entre les mains de deux personnes, le prince Mohamed bin Nayef, qui est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et puis surtout le très jeune ministre de la Défense, Mohamed bin Salman. Il y a quelques semaines, justement, celui qu'on appelle MBS, là-bas, a présenté un grand programme de réforme baptisé « Nouvelle vision de l'Arabie pour 2030 » qui est censé engager la diversification de l'économie et préparer, d'une certaine manière, le pays à l'après-pétrole, qui est évidemment un défi d'autant plus crucial quand on sait le contexte dans lequel on se situe, c'est-à-dire un contexte de prix du baril extrêmement bas, qui a entraîné d'ailleurs une crise budgétaire en Arabie Saoudite, ce qui est absolument inédit. Et dans ce plan, précisément, et c'est là que c'est intéressant, on trouve tout un chapitre consacré à la culture. Je lis un tout petit extrait. Nous allons augmenter le nombre et la variété des activités culturelles et de divertissement dans le but d'ouvrir des lieux dédiés à même de recevoir la myriade de talents de nos citoyens. Nous allons aussi revoir notre régulation pour simplifier la création et l'enregistrement de clubs culturels et socio-amateurs. Nous lancerons et fournirons le soutien financier nécessaire pour un programme national, un programme qui créera un réseau national de clubs, encouragera l'échange de connaissances et les expériences internationales et promouvera une meilleure prise en compte d'une large gamme de hobbies et de loisirs. On sent, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la culture et le divertissement sont une priorité pour ce nouveau gouvernement, ce nouveau pouvoir saoudien.
Oui, ils sont une priorité pour lui parce qu'ils sont une priorité pour son opposition. C'est-à-dire, la culture, comme j'ai essayé de l'expliquer, est centrale dans la pensée de l'islamisme. Si bien que aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure aussi pour les élites en place dans tous les pays. Et l'Arabie Saoudite, ce qu'on voit donc depuis quelques mois, elle essaie de joindre la dynamique des principautés qui sont ses voisins. Et alors, c'est une ironie de l'histoire puisque ces principautés se sont lancées dans la multiplication des musées et des universités, justement en réaction aux politiques publiques de l'Arabie Saoudite. Alors, dans les années 80. Il y a une islamisation culturelle par le haut dans la plupart des pays du monde arabe. Et cette islamisation par le haut, elle se fait en réaction à la révolution iranienne. L'idée, en gros, c'est islamiser culturellement pour retirer cet argumentaire à l'opposition islamiste. Pour pas lui laisser le champ libre de dire, voilà, vous développez une culture à l'échelle nationale qui est autre, qui est étrangère, qui n'est pas notre identité. Donc cette dynamique-là, elle s'enclenche dans les années 80 et l'islamisation par le haut va beaucoup profiter au salafisme, c'est-à-dire à l'islamisme de type saoudien, qui est l'islamisme soutenu par l'État. Et les principautés qui sont voisines de l'Arabie Saoudite, qui sont tout autant effrayées qu'elles par la perspective de cette révolution qui renverse la plus vieille monarchie du Moyen-Orient, la monarchie iranienne, s'adosse à elle et se lance elle aussi dans cette islamisation culturelle par le haut. Or, toute cette dynamique, elle va rapidement montrer ses limites avec la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, je rappelle nos auditeurs, c'est l'Irak envahit le Koweït. L'Arabie Saoudite est incapable de protéger le Koweït. Ceux qui vont libérer le Koweït, ça va être les grandes puissances occidentales, les grandes puissances militaires et technologiques occidentales. Donc l'idée pour les principautés de s'adosser à l'Arabie Saoudite, de suivre finalement sa voie, qui consiste à islamiser par le haut, à développer un islamisme réactionnaire face à la perspective d'un islamisme révolutionnaire, ce système commence à s'effriter. Et on a les petits états de la côte qui commencent à multiplier les fenêtres d'échanges culturels et surtout les fenêtres d'importation de modèles culturels européens pour diversifier en fait les liens avec ces pays qui sont capables de les protéger.
Ce que vous voulez dire, c'est que le désir de ces grands musées dans cette région du Golfe, il est né de la guerre du Golfe.
Ah oui, complètement. Et s'il y a un déplacement à faire au niveau chronologique, c'est bien de sortir de l'idée que ces projets sont un produit de l'après 11 septembre. Pas du tout. Tous ces projets, quand on en fait l'archéologie, nous amènent, les projets récents du type Louvre Abu Dhabi, Musée d'art islamique, nous conduisent au tout début des années 90 avec ce qui est le projet séminal de tous ces musées à visibilité internationale, que j'appelle aussi des musées miroirs. Le projet séminal, c'est le Musée d'art islamique de Doha. Et ça répond en partie à l'interrogation initiale. Pourquoi le roi d'Arabie Saoudite aujourd'hui, enfin pas le roi, pardon, Mohammed Ben Salman, qui est aux commandes, pourquoi prescrit-il aujourd'hui la création du plus grand musée d'art islamique au monde? Parce que toute cette dynamique de centrifuge finalement, d'éloignement de Riyad, des principautés côtières, a commencé par un musée d'art islamique au Qatar. Alors pourquoi? Tout ça commence...
Donc c'est pour quoi? C'est pour retrouver cette centralité?
Un magistère, exactement. C'est pour retrouver un magistère rien qu'à l'échelle de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, le temps d'un magistère... si vous voulez, il y a une lutte à l'échelle régionale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour le contrôle du Moyen-Orient. Or, l'Arabie Saoudite a même été fragilisée au niveau de la péninsule elle-même. Et l'Arabie Saoudite est aujourd'hui en situation très difficile au niveau de son magistère sur l'espace monde islamique. Parce que ses voisins immédiats ont cherché à la fuir depuis le début des années 90. À fuir son emprise culturelle, justement, parce que, en échange, elle n'est pas capable de les protéger militairement. Et on voit ses propres difficultés à cette Arabie Saoudite à mener la guerre au Yémen actuellement.
Dans quelle mesure est-ce que ce grand musée d'art islamique, le plus grand même musée d'art islamique de Riyad, qui est aujourd'hui en projet, en quoi est-ce qu'il se différencie finalement, par exemple, d'un Louvre à Abu Dhabi dont on a beaucoup nous parlé? Est-ce qu'on pourrait formuler l'hypothèse suivante, qui serait que finalement le Louvre à Abu Dhabi, c'est quelque chose qui est pensé comme une forme de dialogue entre les cultures, ou bien sûr il s'agit de voir comment, disons, j'utilise des guillemets, mais la culture orientale dialogue avec les autres cultures, alors que pour ce qui concerne Riyad, il s'agit, et donc avec une certaine universalité, même si, bien sûr, cette universalité, elle est perçue par le prisme de l'islam, bien sûr. Mais est-ce que on peut dire que, d'une certaine manière, l'Arabie Saoudite veut se retrouver au centre du monde avec l'islam, qui en est, bien sûr, le cœur?
Mais elle est au centre du monde, l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, autant elle est fragile en tant que puissance militaire, autant sa capacité à créer un État centralisé n'a pas pour le moment vraiment abouti, autant c'est une puissance culturelle mondiale. Et je pense même qu'il n'y a aujourd'hui dans notre monde que deux puissances culturelles mondiales. Il y a les États-Unis et il y a l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi ça peut étonner? Aller dans des zones périphériques des grandes villes européennes. Vous verrez des citoyens des différents États européens avec, évidemment, la culture qui est diffusée via l'école, via les médias nationaux de ces pays. Vous verrez une forte influence culturelle américaine et de plus en plus aussi une vision saoudienne de l'islam qui se diffuse. Vous n'allez pas trouver en dehors des diasporas turques la vision turque de l'islam. Vous n'allez pas du tout trouver, parce que les diasporas iraniennes sont peu nombreuses en Europe, une vision iranienne, islamiste de l'islam. En revanche, vous allez trouver le rapport à la culture de l'Arabie, qui est d'autant plus fort et d'autant plus facile à exporter qu'il est alternatif à la vision européenne de la culture. Mmh. Vous voyez, la culture, c'est un des mots les plus difficiles à définir, comme le mot religion. Or, en sociologie, il y a deux grands types de définitions. Il y a les définitions qu'on dit sociologiques. C'est-à-dire, la culture, c'est les hautes valeurs d'une société. En l'occurrence, comme ça, la sociologie est née en Europe, c'est les hautes valeurs des sociétés européennes. Et pour nos sociétés, c'est quoi la culture? Ce sont les arts. L'autre grand groupe de définitions est beaucoup plus englobant, on appelle ça les définitions anthropologiques, et elles placent au centre les croyances. Et c'est cette définition-ci de la culture que défend l'Arabie Saoudite depuis maintenant un demi-siècle. C'est-à-dire au centre, il n'y a pas les arts,
il y a la religion.
Il y a la foi. Et c'est quand même un des rares pays aujourd'hui qui défend cette vision-là avec des moyens importants.
Ce qui n'est pas le cas de ses voisins.
Non, parce que ses voisins, en fait, n'ont pas, si vous prenez le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, n'ont pas d'institutions religieuses et n'ont pas une vision à eux de l'islam, ce que possède l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a deux ressources, le pétrole, mais aussi ce wahhabisme, qui est finalement une vision de l'islam, que n'ont pas les voisins. Et donc, il n'y a pas ce matériau de base à partir duquel on peut rayonner.
Vous écrivez, je vous cite, « Les musées à rayonnement international sont nés de l'étreinte trop forte entre le Qatar et l'Arabie Saoudite dans les années 80, dont l'Émirat cherche à se libérer dans les années 90. » Donc en fait, c'est parce que ces petits pays du Golfe, ceux qui sont réunis dans le fameux Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar, étaient finalement trop dépendants d'une certaine manière du grand fer saoudien qu'ils ont cherché à en échapper en élaborant cette stratégie des grands musées. Le premier pays justement duquel va émerger cette plateforme de visibilité internationale, c'est le Qatar. Pourquoi le Qatar ?
Parce que de tous les pays de la côte, c'est celui où le salafisme s'est le plus diffusé depuis l'Arabie Saoudite, dans les années 80. Donc dans cette période où l'idée, c'est que les petits pays s'adossent à l'Arabie Saoudite pour être protégés de la perspective qui les horrifie d'une révolution sociale, justifiée par une idéologie islamiste. Et le salafisme se diffuse le plus au Qatar parce que de tous les pays de la côte, c'est le seul qui appartient à la même école juridique de l'islam que l'Arabie, qui est le hanbalisme. En islam, il y a quatre grandes écoles de droit, et la plus rigoriste, c'est le hanbalisme. Et le hanbalisme, son territoire, c'est essentiellement le centre de la péninsule arabique, et au niveau de la côte, le Qatar. Le Bahreïn est chiite, majoritairement, le Koweït est malikite, tout comme Abu Dhabi. Et si vous prenez les Émirats plus orientaux, c'est un mélange de hanbalisme et de chafiisme. Et c'est intéressant de mentionner qu'il y a aussi du hanbalisme aux Émirats arabes unis, et notamment dans les Émirats les plus orientaux de Sharjah et de Ras El Khaimah, parce que si on fait l'historique de tous ces nouveaux projets de musées, mais aussi d'universités,
Qu'il y a souvent des universités adossées à ces musées.
Voilà, c'est dans trois domaines. C'est les musées, les universités et le sport. On voit bien que c'est pour définir une culture, et en particulier le contrôle de la jeunesse. Les deux foyers, c'est le Qatar. Mais c'est le pays qui allait le plus loin parce qu'ils ont beaucoup de moyens avec le gaz liquéfié. Mais il y a aussi l'émirat de Sharjah, d'où venait un des deux kamikazes du 11 septembre. Le 11 septembre, c'est aussi un moment où est mise à nu en fait la diffusion du salafisme dans ces états de la côte. Et il y a depuis les années 90 une volonté en fait des élites de ces pays de finalement désalafiser leur territoire. Pourquoi ? Parce que l'idée de se laisser en fait imbiber de la vision saoudienne de la culture, elle était inscrite dans un pacte. L'idée, c'était en échange,
le grand
roi protège ses satrapes. Il en a été incapable. Et la famille régnante du Koweït s'est retrouvée en exil à devoir vider son trésor pour financer des campagnes de relations publiques aux États-Unis.
Donc on va développer notre propre culture, on va construire notre propre identité.
Et nos propres réseaux.
Alors ça passe évidemment par la culture, ça peut passer par des choses beaucoup plus concrètes, parce qu'en réalité, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'il est question là de sécurité. Donc ça peut être des musées, mais ça peut être aussi de façon plus pragmatique, c'est lundi matin, on a du mal, ouvrir par exemple une nouvelle base en accueillant des soldats américains sur son sol, ce que le Qatar avait fait d'ailleurs très très vite juste après la seconde guerre du Golfe. Vous dites que ces fameux musées, alors d'abord ils sont pensés par des Occidentaux, Il faut rappeler ça, on a beaucoup d'architectes occidentaux, l'américain Loé Ming Pei à Doha, on a Jean Nouvel évidemment pour le Louvre à Abu Dhabi, et pour des occidentaux. Vous parlez de musée miroir.
Oui, musée miroir pour prendre le contre-pied de l'idée de dialogue. C'est-à-dire le paradigme majeur du discours officiel pour décrire ces projets, c'est de les inscrire dans un dialogue. C'est des musées pour un dialogue. Or, la manière dont ils sont conçus fait qu'il n'y a pas de dialogue. Concrètement, c'est-à-dire c'est pas des plateformes. Le musée d'art islamique de Doha n'est pas né d'un échange entre des universitaires ou des conservateurs de musées occidentaux et des historiens de l'art et des historiens du monde islamique et du Qatar. Non, ce sont des occidentaux qui sont venus là-bas et à qui on a demandé, on a offert on a donné l'opportunité sur un terrain de mettre en scène finalement leur propre point de vue.
Oui, alors vous parlez de mise en location d'une partielle du territoire.
Oui. Mais ça n'interdit pas le dépassement. Ce n'est pas contradictoire avec l'ambition de l'équipe française qui a été de ne pas faire un Louvre à Abu Dhabi, mais de faire un Louvre à Abu Dhabi. Le projet scientifique du Louvre à Abu Dhabi est assez poussé et développé, et il est très original aujourd'hui. C'est pas du tout le Louvre parisien. Et il a bien fonctionné comme un laboratoire pour de nouvelles idées. Et je pense même que ce musée, c'est le projet effectivement révolutionnaire pour l'histoire des musées au début du XXIe siècle. Et que fin XXe siècle, ça a été le Guggenheim, avec la mondialisation économique du musée, avec comme figure clé Thomas Krenz. Début XXIe siècle, il me semble bien que c'est le Louvre à Abu Dhabi et l'équipe scientifique française, mais franco-française, qui a pensé un dépassement du rapport au musée européen via le décloisonnement. Mais ça va beaucoup plus loin, mais vous aurez sans doute l'occasion de les recevoir, et en particulier le directeur scientifique Jean-François Charnier qui vous expliquera ses idées. Mais donc, c'est pas contradictoire l'absence de dialogue avec l'idée de laboratoire et de dépassement. Mais le dépassement, ça peut s'effectuer seul, et c'est ce qui s'est produit, autant aussi bien à Abu Dhabi qu'au Qatar. L'idée de finalement d'une confrontation des points de vue, la confrontation des points de vue n'a pas eu lieu. Et elle n'a pas eu lieu parce qu'au niveau politique, les choses ne sont pas prévues pour qu'elle ait lieu. Cette idée, finalement, d'une agora, d'un lieu où les opinions contraires s'affrontent et il en sort une synthèse, n'est pas du tout ce qu'on observe dans les pays du Golfe.
Et alors, quel bilan est-ce qu'on peut en faire, justement, de cette stratégie muséale dont, rappelons-le, l'objectif est de gagner en sécurité?
Et de gagner en sécurité, et je pense que prenons l'exemple des révolutions arabes. C'est plus qu'un exemple, voilà, un événement majeur, suite d'événements majeurs qui se sont produits. L'inauguration, par exemple, prenez le cas du Qatar. Il y a ce poète qui a été condamné pour avoir déclamé un poète en soutien aux révolutions arabes, ça n'a pas beaucoup suscité de soutien en Occident. Ou alors l'inauguration de l'exposition de préfiguration du Louvre à Abu Dhabi, à Abu Dhabi même, se tenait au même moment où il y avait les procès de l'opposition islamiste, type frères musulmans, à Abu Dhabi. Et en fait, on se rend compte que tous ces canaux de partenariat avec l'Occident ont continué à fonctionner malgré les révolutions. Et l'endroit le plus intéressant pour observer leur efficacité, pour aider en fait, pour la sécurité en fait, plus que la défense, pour la sécurité des femmes iraniennes, c'est le royaume du Bahreïn, parce que c'est un émirat qui est devenu un royaume depuis 2002. Prenez l'exemple de la course de Formule 1. Le Bahreïn n'a plus de ressources pétrolières. Aujourd'hui, le Bahreïn exploite un réservoir saoudien qui est mis gracieusement à sa disposition. Donc, il ne s'est pas lancé autant qu'Abu Dhabi et le Qatar. Abu Dhabi a du pétrole, le Qatar du gaz, dans ses dispositifs à forte visibilité internationale. En revanche, il a tenté de s'en approcher avec une course de... comment on appelle ça ? Un circuit de Formule 1. Ce circuit de Formule 1, donc, il y a un grand prix, et il était prévu au moment où le soulèvement bahreïnien s'est produit. Il a uniquement été décalé dans le temps. C'est-à-dire, ce partenariat avec les Occidentaux, il ne s'est pas arrêté en raison d'une opposition politique locale. Au contraire, ça donne en fait une permanence. Si vous voulez, il y a la construction au niveau de ces États d'un système de relations, une volonté de faire société qui a fait ses preuves en tant que système stable face aux remous politiques intérieurs.
Alexandre Caseroni, avant de retrouver la Jordanie qu'on va retrouver dans quelques instants avec Samar Doudine pour parler un petit peu de théâtre, vous nous dites finalement ces grandes stratégies de grands musées internationaux, ces fameux musées miroirs, elle a commencé après la Seconde Guerre du Golfe quand ces États comprennent que finalement Riyad n'est pas en capacité de les protéger. Mais quid du Koweït qui a été en première ligne justement, qui a fait les frais de tout ça? Il ne s'est pas lancé justement dans cette politique des grands musées miroirs. Pourquoi ?
Le Koweït est trop démocratique pour se lancer dans ce type de projet. Et en fait, il y a eu de fortes résistances de la part du Parlement. Au Koweït, il y a une vie parlementaire. Et il y a des résistances très fortes au sein des classes moyennes, fonctionnarisées, qu'on retrouve au Parlement, qui sont représentées au Parlement, vis-à-vis de, finalement, la création de ces réseaux par le haut. Ce réseau international par le haut. Parce que la classe moyenne étant beaucoup plus puissante politiquement au Koweït, elle ne...
Que le pouvoir ?
Comment ?
Que le pouvoir ? Les classes moyennes sont plus puissantes que le pouvoir en place ?
Non, en comparaison avec les autres principautés.
D'accord.
Et le poids des classes moyennes, c'est-à-dire de la bureaucratie, des employés, de la fonction publique, de l'État, est beaucoup plus important au Koweït qu'au Bahreïn et aux Émirats unis, au Qatar. Si bien qu'en fait, ces classes moyennes ont empêché à ce que leur échappe la définition des grandes stratégies nationales. Et donc, cette mise en relation des élites locales, c'est-à-dire les familles régnantes, avec de nouveaux partenaires étrangers, a été empêchée par les classes moyennes koweïtiennes.
Dans le sillage du Louvre à Abu Dhabi, c'est notre sujet ce matin avec Alexandre Caseroni.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Je vous propose désormais de prendre le chemin de la Jordanie avec une figure majeure de la scène culturelle jordanienne, Samar Doudine, directrice de théâtre indépendant. Elle officie depuis une vingtaine d'années maintenant auprès de la jeunesse dans un pays, on le sait, particulièrement vulnérable aux tensions communautaires. Elle travaille beaucoup sur cette question de l'identité, qui est une thématique bien sûr qui préoccupe également le pouvoir. On se souvient en mars 2015 par exemple avec ce tweet de Abdallah II, « Sois fier, tu es jordanien », initialement d'ailleurs extrait de son discours sur l'état de l'Union qui était devenu littéralement viral. Dans un pays aussi où le spectre de la fanatisation de certains jeunes inquiète énormément, d'où l'importance, selon Samar Doudine, on va l'entendre, de la culture et de l'éducation. Samar Doudine est au micro de Tiffaine de Clément Salazar, pardon.
I think it's time for the artists and the cultural activists to engage in conversations and in...
Je pense qu'il est temps pour les artistes et les activistes de la culture d'amorcer une conversation et des initiatives musicales, théâtrales, à l'école, dans les quartiers, dans les centres communautaires. Et pour que cela puisse se produire, il faut bien sûr que les portes du ministère de l'Éducation jordanien soient ouvertes aux artistes, aux activistes culturels. Et nous avons aussi besoin qu'un dialogue honnête se noue entre ceux qui croient en un État laïque et ceux qui font la promotion d'une version de l'islam politique, parfois incompatible avec une société libre. Je sais qu'il y a énormément d'artistes et d'organisations de la société civile en Jordanie qui travaillent à mettre un terme à ce sentiment d'isolement que certains jeunes peuvent ressentir et qui peut parfois les amener à rejoindre les rangs de fanatiques, de criminels.
Ces thématiques de l'exclusion, de l'aliénation, du youth empowerment sont au cœur de votre engagement depuis plus de 20 ans. Maintenant, Samar Doudine, et la base de votre travail est une interrogation. Qu'est-ce qui manque à cette jeunesse ? Et ce qu'il manque, justement, c'est souvent une identité culturelle commune forte. Une carence qui, selon vous, crée de facto une possible déshérence de la jeunesse. Alors comment travaillez-vous sur cette question de l'identité culturelle ?
In essence, citizenship is a very important aspect, and citizenship education is a very important aspect of one's identity.
La citoyenneté est un aspect essentiel, et plus encore, l'éducation à la citoyenneté est un aspect essentiel de l'identité de chacun. La Jordanie a toujours été, comme la Syrie, le Liban, l'Irak, la Palestine, une ère multiculturelle. Les musulmans et les chrétiens cohabitent, il y a des Caucasiens, des Kurdes, des Arméniens, et bien sûr des Palestiniens, des Syriens. Il y a tous les peuples de notre côté du monde. Et sans négocier des droits civiques égaux pour tous, au-delà de la religion, de l'origine, de l'ethnie. Ce n'est pas possible d'initier de quelconques politiques identitaires, car ces identités-là deviennent explosives. Donc je crois que nous devons travailler sur l'éducation à la citoyenneté, travailler à ce que la loi soit juste et à ce que l'identité nationale soit inclusive. En parallèle, il faut créer des espaces sûrs, ouverts, où l'on célèbre la diversité, où l'on célèbre la différence. Et c'est là que les arts peuvent jouer un rôle vital. Il ne peut y avoir de culture sans éducation. Je pense que notre jeunesse doit comprendre les structures de pouvoir, comprendre dans quelle mesure ces structures les rendent capables, ou à l'inverse, dans quelle mesure elles rendent incapables ou elles font obstacle. Car ils ont aussi besoin de définir le statu quo, afin de définir leur identité individuelle et leur identité collective, politique, sociale et culturelle. Mais je dois dire que j'ai bon espoir. Une classe créative émerge en Jordanie et dans la région. Vous savez, le printemps arabe s'est fait dans la douleur, mais le printemps arabe a aussi été un moment de vérité. Des masques sont tombés et la jeunesse n'a plus peur. Elle est capable de s'exprimer. Maintenant, c'est aux institutions de se transformer, d'être plus démocratiques et ouvertes.
Alors plus concrètement, quel genre d'activité proposez-vous en tant que directrice, mais surtout professeur de théâtre ?
I've worked on an initiative called the Youth Identity and Cultural Diversity in the City of Amman.
J'ai travaillé sur une initiative baptisée « Identité de la jeunesse et diversité culturelle dans la ville d'Amman », dont ont pu bénéficier plusieurs centaines de jeunes appartenant à différents groupes religieux, ethniques, sociologiques ou idéologiques. Le but était que ces jeunes pénètrent chacun le monde de l'autre et écoutent des histoires courant sur trois générations. Une génération qui a vécu la formation de la Jordanie, des personnes dans la cinquantaine et des plus jeunes. Et chacun devait demander « Quelle est ton histoire, ici, en Jordanie ?» Ils ont partagé ces récits et ont pu situer la joie, situer la douleur, et réfléchir comment on compose avec cet héritage. C'est une forme simple de conversation, où la jeunesse partage nourriture, musique, art en tout genre, mais où elle met aussi juste des mots sur ce que sont nos différences et sur les origines de certaines souffrances. Cela permet de réfléchir à comment vivre avec ces souffrances. Ces jeunes trouvent ainsi leur propre interprétation. Ils formulent leurs propres mots, ils esquissent et performent leur propre voix. Je dirais qu'un collectif de jeunes gens qui travaillent ensemble sur une œuvre d'art, que ce soit du théâtre, des graffitis ou de la musique, devient une communauté qu'on ne peut plus qualifier si aisément. Ce n'est plus un sous-groupe tribal, ethnique. C'est une ouverture aux racines et à la et à leur diversité. En somme, à la complexité et à la beauté de ce que cela coûte d'être totalement humain.
Vous avez travaillé auprès de la mairie d'Amman au début des années 2000, Samar Dedine, et vous avez pu monter divers projets. Quel lien avez-vous désormais avec l'État, avec les institutions publiques ? Est-ce que vous bénéficiez de fonds publics, par exemple ? Et est-ce que vous pouvez travailler en toute liberté ?
First of all, I'm an independent theater director, so I have always mobilized resources for my.
Avant toute chose, je suis une directrice de théâtre indépendant. J'ai toujours réuni moi-même les ressources pour mon art indépendamment des fonds publics. Je crois que la capacité d'organisation de nos artistes est ce qui crée des opportunités. Mais il faut se mobiliser pour créer un fonds jordanien pour les arts et la culture. Le projet de loi est passé récemment au Parlement, mais a échoué. Il faut se mobiliser pour qu'il y retourne. La culture n'est définitivement pas une priorité au niveau national, mais je pense qu'au niveau municipal, notamment à Amman, il y a un budget pour la culture. Mais il y a encore beaucoup à faire dans les quartiers. Faire en sorte que les artistes puissent y aller et dialoguer avec les élus locaux. Ceci étant dit, la Jordanie revient de loin en termes d'industrie créative. Nous avons désormais une industrie du cinéma, soutenue en partie par l'État. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a du progrès, même si je ne suis pas satisfaite du cadre des politiques culturelles actuelles. Nous devons les recadrer, recréer, réengager l'État. Mais nous avons fait beaucoup de chemin, et ce malgré toute la souffrance qui nous entoure dans la région. La situation s'améliore.
Samar Doudine, directrice de théâtre à Amman, en Jordanie, au micro de Clément Salazar. Réaction Alexandre Caseruni sur ce que vous venez d'entendre, et peut-être en particulier sur le théâtre dans les politiques culturelles, et peut-être en particulier dans le Golfe. Est-ce que ce théâtre fait l'objet véritablement d'une politique publique spécifique, ou disons qu'il est un petit peu abandonné, ou contrôlé ?
Alors, dans le Golfe, le théâtre a joué un rôle très important, comme dans l'ensemble du monde arabe. Et c'est assez amusant, parce que quand on regarde la présence du théâtre à l'échelle internationale, le théâtre, évidemment, a une importance extraordinaire dans l'histoire européenne, en Extrême-Orient aussi, et au milieu, dans ce qui est le monde islamique, le théâtre est quasiment inexistant avant le 19e siècle. Il y a une forme de théâtre religieux en Iran, il y avait du théâtre d'ombre en Syrie, mais c'est tout. Et donc, voilà, un grand vide théâtral. Et ce vide va être rapidement, très rapidement comblé. Et le théâtre a joué un rôle central dans le nationalisme arabe au XXe siècle. Et finalement, l'outil, le lieu du nationalisme arabe au XXe siècle, ça a été le théâtre.
Le Caire. Ah, je crois que vous parliez du lieu géographique, pardon.
Non, sa plateforme, ça n'a pas été le musée, mais le théâtre.
Qui était beaucoup développé, j'imagine, du côté de chez Nasser, non?
Exactement.
C'est pour ça que je parlais du Caire.
Exactement, parce que la dialectique de la culture au XXe siècle, avant les années 80, dans le monde arabe, c'est celle du nationalisme. Ouais. Et de deux types de nationalisme. Il y a d'un côté le nationalisme que défend l'Égypte, un nationalisme arabe fondé sur une haute culture arabe, en langue littéraire, qui privilégie la radio avec Saut al-Arab, où chante Oum Kalsoum, et le cinéma égyptien, et également le théâtre. Le théâtre égyptien qui, là aussi, tous ces plateformes essaient de dépasser les divisions frontalières héritées de la colonisation. En face, les autres pays qui n'ont pas envie de devenir les périphéries du Caire vont développer des nationalismes ancrés territorialement. Et le centre pour cela, ça va être l'Irak.
Bagdad.
Ouais. Bagdad. Et donc, on va avoir Bagdad contre le Caire contre Bagdad. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'émerge la polémique autour du nom du Golfe. Dans la surenchère, Bagdad commence par dire ce Golfe s'appelle le Golfe arabique et non plus persique. Alors que dans tous ses discours, Nasser l'appelle Golfe persique aussi. Mmh. Et ensuite, dans la surenchère, Nasser va aussi s'engager dans cette transformation du nom. Et dans le Golfe, c'est la vision irakienne qui va se diffuser. C'est-à-dire d'une arabité ancrée qui va valoriser le dialecte local. Et tout ça, ça va se faire au détriment du théâtre, au profit des musées du folklore, des festivals du folklore local. Mais le théâtre va continuer à exister et l'émirat de Sharjah aujourd'hui est un lieu très important à l'échelle du monde arabe pour le théâtre arabe. Mmh. Et dans le Golfe, aujourd'hui, on a deux choses qui sont juxtaposées, qui coexistent. Donc il y a tous ces grands musées, ou la foire de Dubaï, qui attirent notre attention vue d'ici. Mais il y a tout un autre rapport à la culture qui, lui, intègre beaucoup plus les acteurs culturels du reste du monde arabe. Mmh. Et Sharjah, c'est très important aujourd'hui pour un acteur, un metteur en scène de théâtre égyptien, où la foire du livre de Sharjah est très importante. Donc l'édition, le théâtre, qui sont ces vieux modes, finalement, d'institutionnalisation moderne de la culture, continuent à exister dans le Golfe aussi. Mais le Golfe a quelque chose, a créé quelque chose en plus.
Vous parliez de ces deux grands pôles finalement qui s'opposaient, l'Égypte d'un côté, l'Irak de l'autre. J'imagine que vous connaissez ce vieil adage qu'il y a au Moyen-Orient. L'Égypte écrit, l'Irak lit et le Liban édite. On va s'intéresser justement à la place du Liban dans la production, la diffusion culturelle et en particulier s'agissant bien sûr du livre et de l'édition.
Beyrouth reste une plateforme très importante dans le monde de l'édition. Effectivement, beaucoup d'auteurs arabes vont publier chez nous. Nous, par exemple, nous couvrons tout un éventail de nationalités arabes dans notre catalogue. Oui. C'est commun au Liban, oui. Parce que, bien évidemment, on a une liberté de ton, une liberté d'expression qui est connue au Liban. Mais il n'y a pas que ça. Le Liban est une excellente plateforme aussi logistique. Oui. C'est bien beau de sortir un livre, il faut le commercialiser. Oui. Il faut le faire parvenir à ce lecteur arabe qui n'est pas situé dans une seule zone géographique. Oui. Nous avons plus de 20 pays arabes de par le monde, il faut faire parvenir. Donc le Liban distribue et commercialise tous les livres en langue arabe vers ces pays-là. Et on est très présent aussi dans les salons du livre, qui sont des événements très très prisés dans le monde arabe.
Voilà, c'était Faten Fadel qu'on entendait, responsable de la maison d'édition Le Centre Culturel Arabe, lors du Salon du Livre de Beyrouth en 2013. On va retrouver un nouvel invité, Franck Mermier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. J'indiquerai également que vous êtes l'ancien directeur du département scientifique des études contemporaines à l'Institut français du Proche-Orient, donc à Beyrouth, l'IFPO. Alors, avant d'évoquer justement cette place du livre et de l'édition libanaise dans le monde arabe en général, d'abord peut-être un petit mot sur la polémique qui enfle du côté du Liban avec l'auteur franco-libanais qu'on connaît bien sûr, Ibrahim Malouf. On reproche donc à l'auteur des Identités meurtrières d'avoir trahi le Liban par sa simple apparition sur une chaîne israélienne francophone I24 News. Il faut rappeler qu'au Liban, je crois qu'il y a une loi qui interdit tout contact avec Israël, avec qui le pays est d'ailleurs évidemment officiellement encore en guerre. Mais le chef des pages culturelles du quotidien Al-Akhbar, Pierre Abi Sahab, a regretté qu'Ibrahim Malouf écrive... Il a dit tout simplement « Que fait-il là devant cette caméra, comme un élève poli et docile, subissant l'interrogatoire d'une speakerine israélienne ? Dans quel but ? Quel regard est-ce que vous portez, Franck Mermier, sur cette polémique et qu'est-ce qu'elle vous semble surtout révéler ?
Alors, il s'agit évidemment d'Amin Malouf, hein,
Amin Malouf, évidemment.
Franco-israélienne. Absolument. effectivement, ça a été le moyen pour une certaine partie de la presse libanaise, notamment Al-Akhbar, qui se situe justement dans, dans la ligne de la résistance islamique, de Hezbollah, etc., de critiquer cette apparition. Il faut savoir que, effectivement, tout contact avec des institutions israéliennes sont interdites, et même voire tout contact avec des Israéliens. Le pays est toujours en guerre. Cela manifeste surtout le fait que jusqu'à présent, la relation avec Israël est devenue aussi une ligne de fracture extrêmement importante dans la société libanaise. L'Israël est considéré toujours par la majorité de la population, évidemment, comme un ennemi, mais dans le même temps, les contacts culturels peuvent être, disons, autorisés pour certains groupes de la population, alors que pour d'autres, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. C'est véritablement le boycott culturel qui est important et qui là a été transgressé finalement par Amin Marlouf.
Venons-en, Franck Mermier, au cœur de ce qui nous intéresse ce matin. Vous avez co-dirigé avec Sharif Majalani un ouvrage qui vient de paraître, Regard sur l'édition dans le monde arabe. C'est paru chez Kartala, dans lequel vous vous penchez sur l'histoire de l'édition dans un certain pays du monde arabe. Elle est relativement récente, disons même relativement modeste, mais dans d'autres, en revanche, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancrée. C'est le cas justement du Liban. Comment comprendre justement cette place spécifique du Liban? Au fond, quelles sont les raisons historiques, culturelles et politiques?
Alors effectivement, les premières presses arabes, finalement, dans l'espace arabe, ont été installées au XVIe siècle dans un monastère Saint-Antoine à Kouzaya, au Liban. Donc il y a eu là le rôle très actif des congrégations religieuses pour l'installation de l'imprimerie. Il faut savoir aussi que l'imprimerie n'existait pas, s'est implantée extrêmement tardivement dans le monde arabe, mais le pays qui a été le plus précoce en la matière, c'est le Liban, notamment du fait du rôle de ces congrégations religieuses et du rôle aussi des intellectuels libanais, notamment au XIXe siècle, autour de l'imprimerie catholique à Beyrouth et des presses de ce qui allait devenir l'université américaine de Beyrouth, pour notamment traduire la Bible et moderniser la langue arabe. Donc l'Égypte.
Donc ces missions, les missions protestantes et catholiques qui créent leurs imprimeries.
Cette matière des pionniers. Quoi.
Oui, donc je disais, il y a ces missions catholiques et protestantes qui avaient créé donc ces imprimeries dès le XIXe siècle. Globalement, est-ce qu'on peut dire qu'au fond que le Liban est plutôt un pays où la production culturelle est aux mains du secteur privé et de la libre entreprise, ou est-ce qu'on a vraiment des politiques publiques qui alimentent tout ça?
Le ministère de la Culture au Liban a été créé au milieu des années 60, mais a un rôle extrêmement faible, c'est-à-dire que la part du budget alloué à la culture non seulement est faible, mais en plus, aujourd'hui, en raison de la paralysie politique au Liban, il est pratiquement inexistant, quoi. Donc, le secteur public est absent totalement du domaine culturel. C'est le cas dans le domaine de l'édition. On a à peu près 700 éditeurs privés qui sont recensés au syndicat de l'édition. Parmi eux, il y en aurait une 150 qui sont véritablement en activité, avec 90% de la production qui s'exporte à l'extérieur des frontières. Dans le domaine du cinéma aussi, c'est la même chose. La part du public est extrêmement faible, notamment en termes de subventions. Et donc, la plupart des cinéastes libanais sont obligés de faire des coproductions pour que leurs œuvres puissent être montées, réalisées, etc. C'est le cas dans tous les autres domaines culturels. Donc, à la différence des autres pays arabes où le secteur public est très présent, c'est effectivement le contraire qui se passe au Liban.
Réaction, Alexandre Caseroni.
Oui, non, c'est très juste ce que Franck Mermier vient de dire, cette historique de la place du Liban. Et je me rappelle, la première plateforme de discussion qui soit apparue dans le monde arabe pour mettre en perspective le Louvre à Abu Dhabi, c'était justement à Beyrouth en 2006. Et c'était intitulé, si mes souvenirs sont bons, où sont Ramallah, Beyrouth et par rapport à l'île de Saadiyat où se développe le Louvre à Abu Dhabi. Et c'était justement une interrogation soulevée par le changement de la centralité. Le Liban se sentait marginalisé par rapport à ces États du Golfe. Et l'autre marque que je voudrais faire, c'est finalement les points de comparaison, les similitudes entre Beyrouth et Dubaï. parce que ce qui se passe à Dubaï est à tort mélangé avec les musées au Qatar et à Abu Dhabi. Dubaï n'a pas de pétrole. Et le secteur culturel à Dubaï est en train de se développer depuis maintenant, depuis 2005, disons, avec aux commandes des acteurs privés. Il y a un soutien de loin du bureau de l'émir, mais c'est essentiellement des initiatives privées qui, en fait, rendent visibles tous les flux commerciaux qui passent par Dubaï. Et c'est un peu ce qu'a été Beyrouth à la fin du 19e siècle. Et ensuite, Beyrouth comme réceptacle de toutes les élites fuyant les États en guerre et en révolution du Moyen-Orient, jusqu'à la guerre au Liban elle-même, qui ensuite drainait vers les pays du Golfe une partie des énergies libanaises.
Franck Mermier, Alexandre Caseroni parlait de centralité. La ville de Beyrouth est évidemment un centre culturel très important. On a entendu tout à l'heure un intervenant du Salon du Livre de Beyrouth qui a été créé en 1992. Je crois que c'est un salon très très important. Je crois que c'est le troisième salon francophone du monde, après Paris et Montréal. Mais en revanche, le reste du pays, lui, est un petit peu plus isolé du point de vue culturel. Ça manque peut-être de dynamique culturelle inclusive, Franck Mermier.
Alors il faut savoir que sur les 4 millions d'habitants que compte le Liban, sans compter évidemment les réfugiés syriens qui sont aujourd'hui à plus d'un million, 2 millions habitent dans l'agglomération beyrouthine. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a la hypercentralité de Beyrouth par rapport au Liban, et notamment par rapport à ces anciennes rivales qui étaient surtout Tripoli et Saïda ou Tyr, et donc tout est concentré dans la capitale libanaise, avec aussi une raison très importante par rapport à la centralité. On parle beaucoup des pays du Golfe et de cette nouvelle centralité golfienne, si on peut dire. Il faut quand même savoir que ces pays du Golfe se caractérisent aussi par une forte censure. Beyrouth conserve une grande part de sa centralité, notamment dans le domaine du livre et de l'édition et de la pensée, du fait justement qu'on peut publier à Beyrouth des ouvrages qu'on ne peut pas publier ailleurs. On a même des Saoudiens qui ont ouvert des maisons d'édition à Beyrouth. Donc il y a cette question de la censure qui permet finalement à Beyrouth d'être une espèce de zone franche finalement de la production culturelle, ce qui ne veut pas dire que la censure n'existe pas au Liban. Hein. En 2015, un documentaire de Ren Mitri qui s'appelle « En cette terre repose des miens » et qui parlait des déplacés de la guerre a été censuré par la Sûreté Générale, mais par rapport au reste du monde arabe et notamment par rapport au Golfe, effectivement la censure est moindre et permet justement cette ouverture culturelle extrêmement importante et qu'on pourrait qualifier de pan-arabe.
Oui, mais même plus récemment, Franck Mermier, il y a quelques semaines, il y a une chanson d'un artiste franco-libanais qui s'appelle Bachar Mal Khalife qui a été censuré par la Sûreté Générale pour atteinte à l'entité divine, c'est-à-dire qu'en gros on lui reproche d'avoir écrit des paroles irrespectueuses vis-à-vis de l'islam. Donc oui, peut-être une plus grande liberté, en même temps pas une liberté totale. Toute dernière question, Franck Mermier. On sait évidemment que le Liban, c'est une véritable mosaïque ethnique et confessionnelle. Comment est-ce qu'on fait comment cette spécificité, au fond, est prise en charge, prise en compte par les politiques publiques? Est-ce qu'il y a, disons, une fragmentation pour le faire vivre des politiques culturelles, ou est-ce qu'au contraire, il y a un désir de créer une sorte de socle culturel commun?
Alors, effectivement, on parlait de la censure au Liban, et elle porte surtout sur les questions religieuses. Hein. Et il faut savoir aussi que, par exemple, le centre catholique, centre d'information catholique, a aussi, il y a quelques années, interdit Da Vinci Code lorsqu'il a été traduit en arabe. Donc c'est une censure qui est relayée par la Sûreté Générale, mais qui émane souvent des autorités confessionnelles. Donc le poids des autorités confessionnelles, qu'elles soient chiites, sunnites, chrétiennes, ou druze, est extrêmement importante sur ce plan-là. Et les politiques culturelles sont extrêmement faibles au Liban, puisque l'État a un rôle extrêmement mineur dans le domaine culturel, reflète effectivement cette fragmentation culturelle qui est une répartition finalement qui traduit une répartition confessionnelle du pouvoir. Donc si on peut parler aussi de politique culturelle, il faut effectivement, vous avez raison, prendre en considération le rôle aussi des autorités confessionnelles, religieuses dans cette question. Et donc finalement les acteurs culturels au Liban doivent faire face aussi à ces autorités religieuses pour ce qui concerne la liberté d'expression. Mais il reste tout de même que l'espace d'expression au Liban est beaucoup plus large que dans de nombreux pays. Faut quand même aussi se rappeler que les nombreux éditeurs syriens avaient aussi installé ou publié au Liban pour également fuir la censure. Et donc c'est un peu une espèce de poumon par rapport à l'ensemble du monde arabe. Et aujourd'hui, même des fondations culturelles créées dans le Golfe viennent s'installent aussi au Liban. Et puis le monde arabe du Liban aussi peut être aussi manifesté par la création en 1996, par exemple, de la Fondation arabe pour l'image, donc qui a pris ses quartiers à Beyrouth aussi.
Merci beaucoup, Franck Bermier. Je rappelle, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et l'ancien directeur du département scientifique des études contemporaines à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, installé à Beyrouth. Avec ce chanteur Bachar Mal Khalife dont je parlais à l'instant. Merci beaucoup Alexandre Caseroni de nous avoir accompagnés. Je rappelle pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette question, ils patientent encore quelques semaines et paraîtra bientôt au PUF cet ouvrage que vous préparez sur les musées, sur le marché de l'art dans cette région moyenne orientale, dans ce golfe persique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Florian Delors.